Parfait. C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de la guerre en Ukraine. Et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil.
Comment tu vas, Thibaut ?
Bien, voilà, sujet chiant.
Ouais,
on aurait préféré parler d'autre chose.
Il y a des sujets plus légers, mais en même temps, comme on l'expliquait un peu en intro là, sur Twitch, pour ceux qui nous écoutent en podcast, hein, sachez que tous les matins à 9h, vous pouvez nous suivre en direct aussi et interagir avec nous directement sur la plateforme Twitch. Comme on l'expliquait en intro, sujet aussi inévitable parce qu'on a un podcast sur l'actualité des réseaux sociaux et que qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans tous vos feeds du moment ? Bah, tout simplement la guerre en Ukraine. Donc difficile de passer à côté et on ne pouvait pas ne pas en parler un petit peu, ne pas essayer de trouver un angle autour de ce sujet-là. L'angle, ça a été plutôt de se dire qu'est-ce que font les plateformes, comment elles réagissent et puis qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux, quel enjeu il y a avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc on trouvait que c'était un sujet qui était intéressant, qui méritait sa place dans le Super Daily.
Quelle époque, mes aïeux, quelle époque, hein, pendant plusieurs semaines, eh bien, la Russie a amassé ses forces militaires à la frontière de l'Ukraine. On est en janvier et à l'époque, on parle de manœuvres d'entraînement. Et sur TikTok, eh bien, on voit passer ces images de centaines de chars en attente, en race campagne. Pas rassurant à tel point que le 24 février 2022, sur ordre du président russe Vladimir Poutine, eh bien, la Russie annonce l'invasion de l'Ukraine. Une campagne militaire bien à l'ancienne, avec du kaki, des tanks, des missiles, des bombes, du sang, des larmes, etc. Et alors que les habitants de Kiev préparent des cocktails Molotov en ce moment même, eh bien la guerre elle se joue aussi en ligne sur les réseaux sociaux, entre campagnes de désinformation, attaques de hackers et images en direct. La ligne de front semble être à nos portes.
Écoute, moi ce que je trouve intéressant et qu'on va essayer peut-être un peu de dessiner durant cet épisode, c'est que la guerre, ça nous permet aussi de nous rendre compte la place qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos sociétés et même dans des conflits armés comme celui-ci. Lors de toute guerre, depuis tout temps, il y a une guerre de l'information. Chaque camp essaye toujours de ramener l'opinion publique vers lui, que ce soit l'opinion de son propre peuple, du peuple russe, l'opinion du peuple ukrainien ou l'opinion internationale de comment on va faire réagir les peuples américains, européens à cette guerre. Donc, dans chaque camp, on essaye un peu de diffuser des informations qui vont dans son sens. Et aujourd'hui, un des canaux d'information le plus important, c'est les réseaux sociaux. Comme on l'a vu, t'as dû en entendre parler, certaines chaînes nationales russes qui parlent absolument pas du conflit, ou on a vu aussi de l'achat publicitaire sur des plateformes, etc. Donc on va essayer de décrypter toutes ces petites choses qui nous montrent que peut-être qu'aujourd'hui, le premier canal d'information pour n'importe quel peuple, et on l'a vu aussi pendant les révolutions arabes, etc., c'est peut-être les réseaux sociaux.
La Russie, elle pensait pouvoir écraser l'Ukraine et surtout contrôler le récit de la guerre. C'était quand même important. Sauf que le web s'est rebellé. Factuellement, c'est ce qui s'est passé. Parce que malgré les efforts de la Russie pour contrôler ce récit de guerre en Ukraine, Internet s'est regroupé un peu, et plus rapidement d'ailleurs que les organisations internationales actuellement, s'est regroupé pour fournir un soutien pour des informations précises et puis aussi des aides humanitaires. On va parler de tout ça. Et du coup, de nombreuses grandes plateformes ont restreint l'accès de la Russie d'une manière ou d'une autre. On peut commencer peut-être avec le groupe Meta, qui clairement a choisi son camp. En tout cas, c'est pas celui de Vladimir Poutine. Non. Facebook a annoncé, notamment hier, par exemple, avoir supprimé plusieurs fausses pages, comptes, groupes qui propageaient des fake news. Ils ont découvert qu'au cours des 48 dernières heures, il y avait un réseau Meta explique relativement petit, d'environ une cinquantaine de comptes, de pages et de groupes Facebook, mais très stratégiquement créés. Ils se faisaient passer pour des ingénieurs, des scientifiques, des rédacteurs en chef et des journalistes, et ils publiaient des infos selon lesquelles l'Ukraine était un État insolvable. Voilà, ça fait partie de ce genre de choses sur lesquelles Meta est attentive.
Le groupe Meta était le premier à réagir sur ces plateformes. C'était la nuit du 27 au 28 février où ils ont annoncé avoir démantelé une importante opération d'influence pro-russe. Donc, comme tu le disais, avec beaucoup de faux comptes qui auraient été créés, qui auraient diffusé des fausses informations sur ce qui se passait. Il y a un responsable, moi j'apprends, de la lutte contre la désinformation dans le groupe Meta qui s'appelle Ben Nimmo et qui nous explique effectivement que l'opération a quand même plutôt foiré et que ça n'a pas eu beaucoup de visibilité sur sa plateforme. Alors bon, c'est à prendre avec des pincettes hein, puisque c'est quand même le discours du groupe Meta lui-même directement. Ce sera à vérifier aussi dans quelques temps. On y verra, on aura peut-être plus d'informations sur ce qui s'est réellement joué sur le groupe Facebook. En tout cas, ils ont sévi. Et côté gouvernement russe, bah, du coup, on a aussi annoncé des restrictions envers la plateforme, hein, puisque je ne sais pas si tu as vu, mais en Russie, du coup, sur le territoire, bah, on connaît des ralentissements dans le chargement des pages, ouais. Facebook, Instagram, l'impossibilité même d'afficher parfois certaines des images et des vidéos sur cette plateforme. Donc clairement, on voit bien que là, le gouvernement russe essaye de calmer la plateforme Facebook notamment.
Ouais, avec notamment le fait que Meta a décidé d'empêcher la médiatisation de contenus issus de médias russes, hein, et notamment avec RT, Russia Today et Sputnik qui sont là aujourd'hui clairement dans le collimateur de toutes les plateformes. Hein. On sait qu'on va parler de TikTok après. TikTok vient de couper l'accès à Russia Today et Sputnik, et Facebook leur a refusé la possibilité de médiatiser des contenus. Donc en gros, ils sont contraints à la portée organique, on sait ce qu'elle vaut, c'est-à-dire, ouais, très modeste. Et donc effectivement, sanction en retour du régulateur russe.
C'est assez intéressant parce que côté ukrainien, on avait appelé le groupe Meta justement à carrément bloquer complètement l'accès des chaînes russes à la plateforme Facebook, hein, pour dire genre bah, tout média russe ne doit plus apparaître sur Facebook. Et justement, le groupe Meta a pris position en disant non, on veut pouvoir continuer à diffuser Facebook, Instagram en Russie parce que pour le peuple russe, c'est aussi une source d'information indépendante. Ça, c'est assez intéressant. Et puis après, tu le dis, il y a toute la partie publicitaire. Et là, pour moi, on est vraiment dans le nerf de la guerre. La partie publicitaire, c'est là que tout se joue. On avait parlé du publicitaire lors des élections américaines de Donald Trump, avec de l'ingérence étrangère de grosses puissances étrangères russes, notamment sur justement de l'achat de publicitaire pour viser certaines communautés à l'intérieur du peuple américain, pour essayer de faire un peu dégénérer cette campagne et attiser un petit peu des haines entre communautés. Là, on voit que bah, Facebook prend les devants, hein, puisque tout de suite, dès le début, ils interdisent carrément le publicitaire pour tout média russe. C'est quand même une grosse décision. Et comme tu le disais, il y a TikTok, il y a aussi Twitter qui a pris ce type de décision.
Exactement, hein, sur Twitter aussi. Plus de pubs en Ukraine et en Russie. Là, c'est simple, ils ont coupé pour tout le monde. Ouais. Sur Twitter, les publicités qui sont... alors, il faut rappeler hein, que les publicités contrôlées par un média d'État, elles sont interdites depuis 2019, à la différence de Facebook. Voilà, et... même si Russia Today, Sputnik, etc. ont des comptes sur la plateforme, ils ne peuvent pas faire de pub. Hein. Et du coup, en réponse au conflit en Ukraine, eh bien, la plateforme a suspendu temporairement toutes les publicités en Ukraine et en Russie, quelle que soit la source. Et puis, par ailleurs, hein, toujours côté Twitter, ils ont créé un label pour les tweets, voilà, qui reprend les tweets qui notamment sont issus de médias issus du pouvoir russe. Donc, une mention, ce tweet renvoie vers les sites d'un média affilié au gouvernement russe maintenant vient se rajouter en dessous du tweet.
Et ça a vraiment énervé le Kremlin, effectivement, puisque ils ont fait interdire Twitter dans certaines régions de Russie où carrément tu n'as plus accès à la plateforme Twitter. Et pour les Russes, en fait, bah, tout simplement, comme tu le disais, ils sont très énervés de se faire labelliser leur news par ce petit tag, hein, qui explique ce que tu viens de dire. Et puis aussi, ils sont très énervés parce que ils voient des comptes certifiés européens qui diffusent des informations sur le territoire russe via Twitter que le gouvernement russe ne veut absolument pas qu'elles soient diffusées sur son territoire.
Ouais, alors côté Google, hein, là aussi, des réactions fortes à la guerre en Ukraine avec YouTube notamment, qui a stoppé la médiatisation sur les chaînes d'État russe, hein, notamment, donc on en parlait, Russia Today, Sputnik, plus de médiatisation. Et puis par ailleurs, la plateforme, elle limite maintenant les recommandations de vidéos de chaînes russes tout en les bloquant carrément entièrement en Ukraine. Hein. Ouais. C'est le gouvernement ukrainien qui en a fait la demande en disant s'il vous plaît, bloquez la propagande russe et les recommandations de contenu issus de médias russes pour nous, Ukrainiens. C'est fait. Et puis dimanche, Alphabet, hein, qui est la maison mère de Google et YouTube, a également interdit le téléchargement de l'application Russia Today, hein, sur le territoire ukrainien à la demande du gouvernement ukrainien. Donc là, pareil, le web ne veut laisser aucune possibilité, le minimum de possibilités en tout cas aux Russes, d'influer influé médiatiquement sur ce conflit.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est de parler des messageries privées et notamment de l'application, un petit focus sur l'application Telegram qui est un peu au cœur de tout ça. Les messageries privées, on sait que c'est aussi un gros moyen en temps de guerre comme ça de pouvoir communiquer entre des personnes. Et on remarque plusieurs choses déjà, c'est que Telegram, même si son siège est à Dubaï, il me semble, maintenant c'est une application russe qui appartient à Pavel Durov, qui est le fondateur de Contact, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est l'équivalent du Facebook russe. Depuis, ça a été revendu, ça ne lui appartient plus. Mais c'est lui qui avait cofondé ce gros réseau en Russie et qui, du coup, est le boss de Telegram. On a vu, du coup, les Ukrainiens se rabattre massivement sur la messagerie sécurisée Signal.
Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, Telegram, c'est l'application sociale la plus utilisée en Ukraine.
En Ukraine aussi, bien sûr.
Donc,
ouais.
C'est celle qui est largement devant les autres réseaux sociaux. Et effectivement, tu l'as dit, à l'annonce du conflit, forcément, coup de flip. D'autant plus que c'est un réseau social qui est non sécurisé, Telegram, à la différence.
Pas automatique. C'est-à-dire que tu peux. C'est quelque chose dans tes paramètres à paramétrer pour dire que tu veux que tes messages soient chiffrés de bout en bout. Sinon, ça ne l'est pas automatiquement.
Donc, évidemment, grosse crainte des Ukrainiens de savoir est-ce que mes conversations vont être enregistrées. Mes conversations ont un impact sur cette guerre et peuvent être écoutées par les Russes. Et du coup, tu l'as dit, bascule vers d'autres solutions.
Grosse bascule vers Signal, qui récupère beaucoup d'utilisateurs en Ukraine. Et puis, on est, comme tu disais, ils sont inquiets de est-ce que Pavel Durov donne des informations au pouvoir. Alors, pourtant, de son côté, l'application assure avoir refusé de collaborer avec les services russes depuis longtemps, notamment sur des comptes liés à l'opposant, à des opposants à Vladimir Poutine. On sait que Telegram, ça a été aussi un refuge pour justement les opposants de Poutine pour pouvoir discuter librement. Et puis, Pavel Durov, il a publié deux messages sur son compte en expliquant avoir envisagé de bloquer certains canaux Telegram en Russie et en Ukraine, pour justement comme les autres plateformes. Et puis, il dit ne pas l'avoir fait car pour nombreux utilisateurs, c'est peut-être leur source d'information la plus fiable, Telegram, et donc il a préféré laisser tourner.
Il faut quand même dire un truc, c'est que Telegram, quoi qu'en dise Pavel Durov, est aujourd'hui un relais de la propagande russe. Alors, je suis tombé sur cette étude de Detector Media qui suit les contenus malveillants en ligne et qui ont détecté plusieurs dizaines de groupes Telegram importants avec des grosses audiences et très suivis qui ont été identifiés comme diffusant des fausses informations pour aider la Russie. Et puis, pire, Detector Media nous précise que tout ça est orchestré d'un même bloc. Pourquoi ? Parce que avant l'invasion, le mois de janvier notamment, ces groupes Telegram, ils se sont concentrés sur l'encensement d'un sentiment anti-occidental dans le pays, en Ukraine, très ciblé.
En fait, ce qu'il faut comprendre avec Telegram aussi, c'est que comme c'est une messagerie privée, il y a un peu de tout sur la plateforme, comme c'est des groupes d'informations, des espèces de chaînes dans lesquelles on est dans un groupe et on voit les informations tomber. On a des groupes effectivement très pro-russes et puis on a des groupes qui vont peut-être être anti-russes, etc. On trouve vraiment un petit peu de tout.
Et voilà, et cette guerre, elle se passe évidemment aussi sur TikTok. Même avant l'invasion officielle, j'en parlais tout à l'heure, aux premières heures du 24 février, les semaines avant, on avait déjà des vidéos de TikTok qui montraient des mouvements d'armes, des véhicules militaires russes qui étaient en route vers une hypothétique zone de front à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve sur TikTok? Beaucoup de choses. Le hashtag Ukraine War rassemble 373 millions de vues de vidéos. C'est quand même énorme. Monumental. Et là, on y trouve de tout. Des messages de soutien, évidemment. Des images filmées en direct depuis... Ça, c'est assez surréaliste à vivre, quand même. Ces images en direct du quotidien des gens dans un Kiev bombardé. Depuis la Russie aussi, depuis le front. Et au milieu de ce contenu, évidemment, on trouve aussi des faux, des fake news. Ou plutôt des anachronismes avec notamment des images de bombardements issues d'autres conflits, etc. À certains nombre de gens plutôt malveillants ou mal intentionnés qui essayent de récupérer l'attention. Bon, ça, c'est assez triste. Mais il y a un enregistrement qui est bien réel et qui, celui-ci, a vraiment circulé très très fort sur TikTok. C'est ce fameux enregistrement de Snake Island, cette île ukrainienne qui a été bombardée par les Russes.
Ouais, on a vu beaucoup cette vidéo tourner. Et là, je trouve qu'on est sur un point qui est extrêmement intéressant dans cette guerre un peu moderne, 4.0. C'est la guerre en streaming. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez nouveau au final. On a connu en fait pour faire un petit historique comme ça, la guerre du Vietnam, c'est peut-être la première guerre qui avait été largement télévisée dans l'histoire, et on sait que ça a changé énormément de choses parce que elle prend fin en 1975 et le peuple américain reçoit des images dans chaque foyer américain de bombardements, d'images assez horribles, ce qui fait un peu bouger l'opinion publique sur son opinion sur la guerre, parce que jusque-là, il faut quand même s'imaginer que quand il y a des guerres à l'autre bout du monde, bah, on a une photo dans un journal, mais on n'a pas d'image vraiment de la violence que c'est la guerre. Et ça, ça a changé peut-être beaucoup de choses aux États-Unis. Il y a eu ensuite la première guerre, il y a eu la guerre du Golfe ensuite qui s'est déroulée entre 1990 et 1991, qui a opposé l'Irak à 35 États dirigés par les États-Unis. À l'époque, on retrouve trois chaînes télévisées américaines, ABS, CBS et NBC, qui diffusent en direct la guerre. C'est la première fois là qu'il y a de la guerre en direct à la télévision, et c'est notamment là que la jeune chaîne CNN, qu'on connaît tous aujourd'hui, explose parce qu'en fait, elle connaît un énorme succès en proposant, c'était les seuls à proposer de diffuser de l'information en continu, comme on voit aujourd'hui avec BFM, avec iTélé, etc. Bah là, c'était la première fois qu'il y avait une chaîne qui, CNN, c'était la chaîne de la guerre qui diffusait la guerre en continu, à tel point qu'à l'époque, Saddam Hussein, dirigeant irakien, choisit de parler à CNN pour pouvoir faire un discours où il s'adresse aux Occidentaux, ce qui est énorme. Aujourd'hui, je trouve que on a passé encore un cap, puisque non seulement la guerre, on peut la retrouver en direct sur des chaînes d'information continue, mais surtout, là, on peut plus la voir, c'est sur les plateformes comme TikTok, comme Reddit, comme Twitch, où on va avoir la guerre en direct en fait dans son écran d'ordinateur.
D'autant plus que sur les chaînes de télé, maintenant, ils réutilisent des images issues des réseaux sociaux, donc c'est vrai qu'on voit où est la source. Au milieu de tout ça, dans cette guerre en direct dont tu parles, eh bien, il y a un personnage quand même, Volodymyr Zelensky, faut en parler, président ukrainien qui, vraiment, pour lui, là, de mon point de vue, il a tout compris sur la force des réseaux sociaux, sur ce qui se jouait avec ce qu'on appelle cette guerre hybride bien dégueulasse. Son compte Twitter, il est à suivre Volodymyr Zelensky sur Twitter, si le sujet de la guerre suscite votre intérêt, de le conflit ukrainien intérêt. Son compte Twitter, il a gagné plus d'1,5 million de nouveaux abonnés en une seule journée, le 25 février. Je ne sais pas si on se rend bien compte, 1,5 million. Il figure désormais parmi les 3,000 personnes les plus suivies sur Twitter. C'est quand même monumental. Et il utilise Twitter parfaitement bien. Il l'utilise pourquoi ? Ben pour s'adresser à ses concitoyens déjà, mais aussi à la communauté internationale, directement aux dirigeants, en leur demandant de l'aide, en leur demandant des choses, en les remerciant quand il y a un accord qui a été fait. Et c'est aussi pour lui un espèce d'expression pour défier Poutine, l'agresseur. On le voit par exemple dans des séquences qui ont tourné énormément en ligne, une séquence vidéo façon selfie où c'est le troisième jour de la guerre, il est en tenue kaki et il est seul dans les rues de Kiev à se filmer en selfie. On a l'impression que la capitale est abandonnée, qu'il n'y a plus que lui à bord. C'est quand même, en termes de com, c'est quand même très fort. Et la vidéo, elle a été vue près de 18 millions de fois. Elle a été retweetée 12 000 fois. Elle a été aimée par plus de 400 000 personnes différentes. C'est quand même monumental comme prise de parole. C'est vraiment une fenêtre. Ça offre une prise de parole solide. Et la même chose sur Instagram. Ce président sur Instagram. Et alors, il faut rappeler quand même que Zelensky, initialement, avant d'être président, il est acteur. Donc, il avait déjà une grosse base d'audience.
En plus, il a aussi une appétence du coup pour la mise en scène comme ça devant un objectif.
Exactement. Donc, débutant sur ces sujets-là. Il avait une grosse base d'audience sur Instagram. Avant le conflit, il avait déjà 9 millions d'abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, ils sont près de 14 millions à le suivre sur Instagram. Et notamment, il faut aller voir son compte, beaucoup de contenu vidéo, exclusivement vidéo. Et notamment, cette fameuse vidéo d'appel à la paix qu'on a beaucoup vue, qui est faite en russe, je crois. Elle a été vue près de 33 millions de fois sur Instagram, 33 millions de fois.
Moi, j'ai vu aussi la vidéo où il est dans les rues avec son gouvernement, tu sais, il a 5-6 personnes de son gouvernement derrière lui, tous habillés en civil de nuit comme ça. C'est assez impressionnant. En tout cas, voilà, vous l'avez compris. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter.
On peut faire fleuve. On peut parler de la collecte de fonds en ligne aussi qui s'est organisée pour l'Ukraine avec des choses très intéressantes là aussi. la recherche de décentralisation, de passer outre le système monétaire bancaire traditionnel.
Ça, ça va être un des gros enjeux. On n'en a pas du tout parlé dans cet épisode. Peut-être que ça fera l'objet dans quelques mois de notre épisode, mais c'est effectivement le rapport même du côté russe à tout ce qui est crypto-monnaie et NFT maintenant que la Russie est coupée un peu au niveau bancaire du reste du monde.
Et ça aussi, c'est un sujet web, c'est un sujet web 3, on va dire. Hein. Le 26 février, par exemple, le compte Twitter officiel de l'Ukraine a annoncé qu'ils acceptaient les dons sous la forme de crypto-monnaie. C'est quand même dingue. Ethereum, Bitcoin, etc.
Ouais,
ils ont récolté 9,9 millions de dollars en crypto. Et pour ça, ils ont balancé carrément la clé vers leur wallet crypto. C'est quand même ouf.
C'est ouf
d'imaginer un pays faire ça. Et ça aussi, je pense que ça va être un déclencheur sur ces sujets crypto. Ça sera à suivre de près parce que quand même, quand tu as un État qui demande, faites-moi des dons en crypto. Et puis juste pour finir cet épisode fleuve, quelques comptes à suivre quand même. Allez, moi, trois recos de comptes.
Balance-nous tes comptes.
Trois recos de comptes à suivre si vous voulez y voir plus clair. Peut-être que vous les connaissez déjà. Évidemment, je vous conseille de suivre le compte Twitter de l'AFP.
Oui, bon, classique.
Classique. Et en tout cas, vous avez la certitude que ce compte-là,
c'est
normalement,
les vérifiés,
c'est
les news
vérifiées. Ouais. Je pense à Charles Villa, je ne sais pas si tu connais Adjane, qui est un journaliste français qui travaille pour Brut.
Et qui est souvent sur le terrain.
Et qui est actuellement à Kiev. Voilà, donc je vous mets le lien en note de cet épisode. Pareil, à suivre sur Twitter. Et puis peut-être un dernier, Matthew Cassel, c'est un journaliste anglais qui travaille pour Vice. Pareil, il est en direct de l'Ukraine actuellement. Il est à suivre sur Twitter, c'est très intéressant. Et là, je pense que vous avez la garantie d'avoir un contenu le plus neutre, en tout cas le plus vrai possible.
Eh ben écoute, merci pour tes recos Thibaut, merci à tous d'avoir suivi cet épisode un peu particulier sur la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux. On a essayé d'être le plus juste possible et on n'a pas fait de géopolitique, mais on a essayé de vous expliquer au mieux ce qui se passait sur les plateformes sociales, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, alors n'hésitez pas à nous laisser une petite note, un commentaire. Si vous avez envie de réagir à cet épisode, on est ouvert pour en discuter sur les réseaux sociaux @supernatif, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ou même TikTok. Venez en discuter avec nous. Et puis sinon, on se retrouve dès demain matin à 9h.
On vous embrasse, merci à tous. Salut tout le monde. Ciao,
ciao, ciao.